Give me a C! Give me a K! What's that spell? What's that spell? What's that spell? What's that spell?
One, two, three, four.
I thought he'd never leave.
Well, I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur, but I'm planning to go away. Now I am real old, don't you know? Born 10 billion years ago, but they don't love me. Now the children upon their lawn will wake up and wonder where I've gone. And the flies that buzz around where I now be, they're all gonna have to get along without me. They'll say,
where's the little dinosaur?
I didn't think
where's
he'd really go.
Where's
that
little dinosaur?
Bonsoir, vous écoutez Canal Sud 92.2, c'est les bébés dinosaures, l'émission de Rock 70s. Rock au sens large. Bien rock ce soir quand même. Tommy Boy est en vadrouille, donc je pousse les disques tout seul.
Tell that dinosaur to come back. I want him to come back. Yeah, that's right, tell him to come back.
Luc ne nous rejoindra pas ce soir et je lui adresse toutes mes pensées les plus amicales et je lui dédie l'émission. Qui sera en grande partie un hommage à Rick Deringer, alias Rick Zeringer de son vrai nom, qui est mort il y a quelques jours, il n'y a pas très longtemps, et qui est connu pour deux gros tubes. On va s'écouter d'abord son tube 70s tiré d'un album solo de 1973 qui s'appelait All American Boy. C'est un morceau qu'il avait écrit au départ pour Johnny Winter, en tout cas qu'il avait donné à Johnny Winter. Car Rick Deringer est surtout connu comme étant, disons, un des accompagnateurs fidèles, alors que ce soit la guitare ou la production, des deux frères Winter, John, Johnny et Edgar. Et donc ce soir, on va écouter du Rick Deringer en solo, et puis du Rick Deringer avec Johnny Winter, et puis du Rick Deringer avec Edgar Winter, et puis si on a le temps, du Rick Deringer avec Johnny et Edgar Winter en même temps. Car il les a suivis pratiquement enfin, sur tout le début de leur carrière, et même par la suite, dans les années 80-90, de temps en temps, ils se retrouvaient. Ils jouent ensemble, alors après, on en parlera un petit peu, mais Rick Deringer a eu une longue carrière... Après les 70s, beaucoup d'albums solo, beaucoup de productions, beaucoup de collaborations avec des fois des choses un peu discutables. Et puis, un revirement politique en 97, encore plus discutable. Le bonhomme n'était pas spécialement sympathique, mais quand même, c'est un sacré guitariste. Le tube des 70s, c'est Rock'n'Roll Uchiku. Sur son album donc All American Boy, un morceau qui était déjà paru sur le premier album du Johnny Winter End. En 1970, on en reparlera tout à l'heure. Mais là, on s'écoute la version donc par Rick Deringer, chantée par Rick Deringer, où il est quasiment tout seul à jouer. Je crois qu'il y a juste un batteur qui l'accompagne. Trois choristes et un batteur, Bobby Caldwell. Lui, il fait tout le reste. Sur cet album, qui est son premier album solo, Edgar Winter avait participé, et même Joe Walsh. Ouh là là. Et c'est un album plutôt pas mal, qui n'a pas quand même connu un énorme succès, mais ce morceau-là, sorti en 45 tours, Rock'n'Roll Uchiku, a atteint quand même le numéro 25 du Billboard du Hot 100 américain, ce qui n'est pas rien. Et c'est resté un morceau, disons, un peu le morceau mythique de Rick Derringer, avec un autre qui a eu encore plus de succès et qu'on s'écoutera tout à l'heure. Donc on démarre avec Rock'n'Roll Uchiku, la version de l'album solo de Rick Derringer en 73. Rock'n'Roll Uchiku, donc c'était Rick Derringer, c'est la version de son album solo en 1973, son premier album solo. On en écoutera deux autres versions de ce morceau, une avec Johnny Winter et une avec Edgar Winter, puisque ce sont ses deux complices sur tout la première décennie de sa carrière, même un peu plus. Mais le gros tube de Rick Derringer, en fait, il l'a chanté en 1965. Car Rick Derringer était le chanteur des McCoys. Les McCoys ont eu un énorme tube qui s'appelait Ain't Gone Sloopy. Ain't Gone Sloopy, c'est un morceau qui est quand même une histoire assez marrante. Alors il a été écrit par deux gars, Wes Farrell et Bert Russell, sous le titre de My Girl Sloopy au début, pour un groupe qui s'appelait The Vibrations. Peut-être ça dit quelque chose en 64.
Ouais,
et alors, ça circule un peu, ça n'a pas fait un énorme tube, mais ça circule un peu, et puis il y a beaucoup de gens qui ont entendu ça, qui ont trouvé ce morceau pas mal. Les Yardbirds se sont intéressés à ce morceau, Eric Clapton voulait le reprendre. Et puis finalement, ils en ont fait un autre à la place, et ils reprendront un Gone Sloopy un peu plus tard. Les Strange Loves aussi, ceux qui avaient fait I Want Candy, ouais. Oh, ils trouvent ce morceau génial, ils enregistrent une piste instrumentale, et puis ils partent en tournée. Et puis en tournée, ils jouent avec le Def Clark 5. Alors, au bout d'un certain temps, le Def Clark 5, je suppose qu'ils le jouaient sur scène, hein, nos amis les Strange Loves. Et donc, le Def Clark 5 leur dit, bon, là, dès qu'on rentre en Angleterre, on va reprendre le morceau, on va vous copier vos arrangements, on va sortir en 45 tours, ça va faire un énorme tube. Alors, ils avaient un peu les boules, apparemment, les Strange Loves. Et leur manager, enfin, le mec qui tournait autour, ont monté un coup en juillet à Dayton, Ohio. Ils jouent les Strange Loves avec un autre groupe qui s'appelle Rick and the Raiders. Alors ils trouvent que le chanteur qui a 16 ans est plutôt pas mal, il s'appelle Rick Zeringer, futur Rick Zeringer évidemment. Du coup il l'envoie en avion jusqu'à New York pour qu'il ajoute des vocaux sur la piste instrumentale qu'avaient enregistré les Strange Loves. Je sais pas si vous suivez. C'était les magouilles habituelles hein, dans les 60s. Le but étant de sortir le plus vite possible les 45 tours qui pourraient avoir le plus de succès possible. Donc notre ami Rick Zeringer, qui a déjà une certaine personnalité, arrive à convaincre les producteurs de changer le titre du morceau. Alors c'est plus My Girl Sloopy, ça devient Un Gone Sloopy, et ça sort sous le nom, alors non pas de Rick and the Raiders, parce que les producteurs se disaient bon, ça va, il va y avoir la confusion avec Paul Revere and the Raiders, alors il fallait changer de nom, donc ils les ont appelés les McCoys, on ne sait pas trop pourquoi. Et donc c'est sorti en 65 et c'est monté dans les charts assez vite, numéro 1 à partir de août 65. Détrônant, semble-t-il, le Yesterday des Beatles, ce qui n'est pas rien quand même. Et ce sera un énorme succès, le seul numéro 1 de la carrière de Rick Derringer, il faut bien avouer. En fait, la version des Def Clark 5, elle n'est jamais sortie. Et les Strange Loves, ils ont fait une version vocale aussi. Enfin, ils ont chanté sur leurs arrangements et c'est paru sur un de leurs albums l'année d'après ou en fin d'année. Ça a été adapté en français, hein, bien sûr, Un Gone Sloopy, notamment par les Martin Circus. Je vous épargne ça ce soir, les Martin Circus, je veux dire. Mais un jour ou l'autre, on se l'écoutera. Un sourire, je crois que ça s'appelle la version française des Martin Circus. Il y a un groupe qui s'appelait Les Surfs aussi, qui a enregistré ça en français. Il a adapté en français. Ouais, je sais plus. Là, on va s'écouter Un Gone Sloopy, mais alors pas celui de 65, 45 tours, 60s, par excellence. Non, on va s'écouter une version 70s, bien sûr. Car en 75, 10 ans plus tard, Rick Derringer réenregistre le morceau. Avec un groupe complètement différent. Alors il faut savoir quand même que les McCoys, on va en reparler, hein, parce qu'ils ont suivi, en tout cas certains d'entre eux ont suivi Rick Derringer sur une bonne partie de sa carrière. Il va faire une version avec Edgar Winter qui joue. Il rajoute du marimba, de l'orgue, du saxophone à la version d'origine, enfin, surtout du marimba qui est une espèce de xylophone un peu bizarre. Il en fait un arrangement légèrement reggae. Et il le ressort donc en 1975, alors ça n'aura pas le même succès évidemment, mais c'est une version plutôt sympathique qui fait le buzz en ce moment à cause d'une vidéo. Alors ça, je suis tombé des nues en voyant ça. Il y a une vidéo qui circule, alors mais qui circulait depuis 75 hein, bien sûr, et qui est revenue, alors je ne sais pas, grâce à TikTok, ce genre de truc, où on voit donc Rick Derringer et son groupe, avec les cheveux longs, hein, c'est plus la version 60s évidemment, hein, ils n'ont plus tout à fait les mêmes dégaines. Jouant cette version de Un Gone Sloopy, et une fille qui danse devant, une fille très très sexy, qui fait une danse assez lascive, pleine d'énergie, une très belle fille, court vêtue naturellement. Et alors tout le monde était tombé amoureux de cette fille et cherchait sur internet, enfin tu sais, dans les réseaux sociaux, mais qui est-elle? Alors il y a eu plusieurs dames, maintenant d'un certain âge évidemment, qui ont revendiqué le fait d'être la danseuse sur le clip des. Alors ils se faisaient appeler les McCoys sur le clip. Et finalement, on a réussi à trouver, c'est Lisa, machin truc, j'ai oublié son nom, mais bref, on a réussi à trouver qui était la vraie danseuse, mais tout le monde s'en fout en fait, mais bon bref. C'est vous dire que ce morceau, Un Gone Sloopy, est revenu dans l'actualité, grâce à sa version 1975. Celle qu'on va s'écouter maintenant, alors elle est quand même parue sur un album solo de Rick Derringer, qui s'appelait Spring Fever. Voilà, ça doit être son troisième album solo, je crois, deuxième ou troisième. Spring Fever, donc en 75, avec une version un peu particulière de Un Gone Sloopy. Tommy Boy, mon acolyte en vadrouille, m'a envoyé un message par télépathie pour m'indiquer que les Surfs, qui ont repris donc ce Hang On Sloopy, qui l'ont adapté en français, étaient en fait un groupe malgache.
C'était les femmes, hein.
Alors là, j'avoue que je suis sûr qu'il est très déçu quand on ne passe pas à la version des Martin Circus, mais ne vous inquiétez pas, ce sera pour une prochaine émission. Et là, c'est écouter quelqu'un d'autre. Alors, on va revenir longuement sur Rick Derringer tout à l'heure. Mais là, on s'écoute quelque chose d'autre, un tube assez imparable et mémorable, dont on a écouté pas mal de versions différentes ces dernières semaines. En voici une par l'auteur lui-même, mais une version tardive, que je trouve très réussie quand même. Live à Paris en 2002, semble-t-il. Et vous allez sans doute vite reconnaître de quel morceau il s'agit et de quel chanteur il s'agit.
I drink all the time, 'cause one love wounds. Well, that is a fact. Yes, one love wounds. Well, that is that. Oh, nothing will drive them away. We can beat them forever and ever. We can be heroes just for one day. I could swim like dolphins. Like dolphins can swim. Oh, nothing will keep us together. We can beat them just one day. Heroes just for today. What you say? I say. We'll be right back.
vous avez reconnu sans doute David Bowie avec le morceau Heroes, donc une version très tardive, live à Paris en 2002, avec Earl Slick à la guitare, un gars qui a joué un peu avec tout le monde, avec Lennon notamment, avec Dutron même, et aussi avec les New York Dolls, dans leur reformation, entre 2011 et 2014. Il y a une fille à la basse, qui est assez charismatique. Un batteur qui a joué aussi avec les B-52s, d'autres musiciens qui veulent un peu de la New Wave ou ce genre de choses. Mais cette version est très bonne, je trouve. Alors là, on va revenir à Dave Thomas, qui lui est mort il y a quelques semaines. On lui avait rendu hommage aussi, chanteur de Père Ubu et puis des Rocket from the Tombs. Et on va s'écouter le deuxième 45 tours de Père Ubu. C'était en 76. Et avec Peter Lofner, le légendaire guitariste, mort à 24 ans. Qui est encore là, en fait, il était bien sur les deux premiers singles de Père Ubu. Et après, il a disparu, il a tenté d'entamer une carrière plus ou moins solo, avec différents groupes, très éphémères. Et puis il est mort l'année d'après, en 77. Donc Peter Lofner avec Dave Thomas, alias Crocus Behemoth, c'est comme ça qu'il se l'appelait. Et puis le line-up des tout débuts de Père Ubu. Donc là, on retrouve Dave Taylor au synthé et puis Scott Krause qui restera un petit peu plus longtemps, lui, à la batterie. C'était la phase B de Final Solution qu'on va s'écouter. Ça s'appelait Cloud 149, Cloud 149, le nuage 149 qui est bien mieux que le nuage 148, c'est sûr. Un 45 tours de 76, donc, de Père Ubu. Donc Cloud 149, le 42e 45 tours, la phase B, et on va s'écouter maintenant un morceau qui plus tard sera repris par Père Ubu, mais qui là dans une version un peu particulière avec Peter Lofner. Donc ça doit se passer en 75. Peter Lofner accompagné, il n'est pas tout seul, il est accompagné de Craig Bell à la basse, qui était un ancien Rocket from the Tombs, donc c'est deux ex-Rocket from the Tombs. Peter Lofner en 75, il n'y avait pas encore. Père Ubu, disons, n'existait pas encore. C'est fin 75, je pense qu'ils ont splitté le Rocket from the Tombs. Et donc, il fait un morceau qui, plus tard, sera repris par Père Ubu. On va s'écouter les deux versions parce qu'elles sont relativement différentes quand même. Et ce morceau s'appelle Life Stinks. Et là, vous allez avoir donc Peter Loeffner à la guitare, aux vocaux, son copain Craig Bell à la basse. Et vous pouvez admirer le style de guitare complètement déjanté de Peter Loeffner.
A silver crater piled upon a beehive, scarily walking as if in some strange sense. Need a drink. Life stinks. Life stinks. Life stinks. Life stinks. Seeing pink, I laugh stinks. Can't wink, I can't blink. I need a drink. Laugh stinks, laugh stinks, laugh stinks, laugh stinks.
Life Stinks, donc deux versions, celle de Peter Lofner avec son copain Craig Bell dans sa piole, hein, complètement déjanté, avec une guitare. On a l'impression qu'il veut, là, qu'il combat avec elle, là, c'est assez incroyable. Et puis plus tard, la version que Père Ubu va en faire, donc en 78. Alors là, à ce moment-là, bah, Peter Lofner est déjà mort. Hein. Donc, mais je suppose qu'il aurait été content de là où il était, de savoir que ses copains reprenaient son morceau. Dans une version un peu plus polissée, mais bien déjantée quand même. Hein. C'est le premier album de Père Ubu, celui de 78, qui s'appelle Modern Dance, dans lequel il y a une bonne moitié des morceaux qui sont vraiment bien. Et le reste qui est un peu zarbi et parfois un peu chiant, pour être tout à fait honnête. Donc Père Ubu, faut y aller quand même, faut s'intéresser, mais en sélectionnant, quoi, on va dire. Et puis les débuts, par contre, les trois premiers 45 tours, là, c'est quelque chose. Alors on va changer de registre et on va s'attaquer aux Beatles, puisque c'est notre groupe fétiche de l'année jusqu'à Halloween prochain. Et là, on va s'écouter le dernier morceau enregistré par les 4 Beatles en studio. C'était un morceau de Abbey Road, I Want You, She's So Heavy, un morceau de John Lennon. Alors bien sûr, après les sessions d'Abbey Road, ils vont retravailler notamment sur quelques morceaux qui finiront sur l'album Let It Be. Mais Lennon est déjà parti à ce moment-là. Donc le dernier, semble-t-il, enregistré en studio par les Beatles, sous le nom des Beatles, ce serait I Me Mine, qui est donc sur Let It Be. Mais Lennon n'est pas là. Donc, celui-là, c'est le dernier morceau enregistré par les 4 Beatles en studio en 69. Et on va s'écouter, on écoutera une reprise. On avait déjà écouté une reprise par Eddie Hazel, le guitar héros de Parliament Funkadelic, qui ont fait une longue version complètement psychée et assez géniale. Mais là, on en écoutera une autre version aussi par un groupe plutôt soul, carrément soul même. Et un peu plus courte aussi, hein. Et instrumentale, donc ça vous met sur la piste peut-être, mais c'est pour tout à l'heure. D'abord l'original, donc tiré d'Abbey Road, avec un morceau assez épique qui se conclut de manière totalement abrupte, un petit peu comme la carrière des Beatles, hein, qui s'est arrêtée d'une manière un peu quand même brutale, faut bien l'avouer. Donc les Beatles, I Want You, She's So Heavy, sur l'album Abbey Road.
I want you so bad. It's driving me nuts.
Oups, eh oui, je vous ai prévenu, la fin est brutale. C'est donc la fin de la face A de Abbey Road. I Want You, She's So Heavy, morceau de John Lennon, signé Lennon-McCartney bien sûr. Le dernier enregistré par les 4 Beatles en studio en 69. Et tout à l'heure, donc, on s'en écoutera une petite reprise. On revient au Rock and Roll Uchiku de Rick Derringer. Mais là, c'est une version par le Johnny Winter Hand. Alors après les McCoys, une bonne partie du groupe. Les McCoys, c'était un trio au départ. Il y avait Rick Derringer, il y avait son frère. J'ai oublié son prénom. Alors lui, il avait gardé le nom Zeringer, apparemment. Qui était le nom d'origine. Derringer, hein, c'est le nom d'un revolver, en fait, d'une arme. Là, c'est sûr que ça, peut-être ça sonne mieux. L'autre avait gardé son patronyme de Zeringer, mais j'ai oublié son prénom. Enfin, c'est ton frangin qui était à la batterie, en tout cas. Et Randy, il s'appelait. Voilà, Randy Zeringer. Et puis, il y avait Randy Hobbs, un bassiste. Et ben, ces trois-là vont être donc Rick Derringer, son frangin à la batterie, et Randy Hobbs à la basse. Tous les trois des ex-McCoys vont être embauchés par Johnny Winter, en fait, pour le groupe qui s'appellera Johnny Winter End. And McCoys en fait, et ils vont enregistrer un album ensemble et puis un live après. Je crois que le live s'appelle Road. Bon, j'ai oublié. Et puis ils tourneront pas mal durant l'année 70. Après, Rick Derringer va plutôt travailler avec le frangin de Johnny Winter, c'est-à-dire Edgar Winter. Et ça, on le verra tout à l'heure. Alors on va s'écouter donc une version live de Rock'n'Roll Uchiku, enregistrée au Fillmoriste en octobre 70. Et le line-up sur scène doit être à peu près le même que celui qui figure sur l'album studio qui était sorti la même année. En tout cas, il y a Rick Derringer, ça c'est sûr. Et quelques petits duels de guitare. C'était quand même leur spécialité. Johnny Winter aimait bien avoir un deuxième guitariste solo là, pour ferrailler. Et là, sur cette version, ma foi, il se gêne pas. Donc, Rock'n'Roll Uchiku, Johnny Winter End, donc Johnny Winter avec Rick Derringer à la guitare.
One thing back at the old town hall. There goes the double thing was made to die. I'm never gonna do the funky sound. Rock and roll, Uchiku. Call him on, let my fuse. Talk on out of the revenue. I hope you all know what I'm talking about. The wiggle, I think, it really knocks me out. You know how all the time, but if you're not there too, come on, little close, I'm gonna do it to you. Darling, let my view. Rock and roll, Uchiku. So go out with the news. Thank you.
just out for about this time of year. I've gone on back since you meet me there. The road and the grass goes behind the wall. The ears start to ring like a fire alarm.
Voilà, belle déchirade de guitare. Ah bah si vous aimez ça, on va en remettre une couche avec encore le Johnny Winter Hand, mais cette fois donc l'album studio et le morceau Funky Music. Où là aussi un bon duel de guitare là, entre Rick Derringer et Johnny Winter, qui étaient donc deux guitaristes solistes en fait. Alors Derringer faisait souvent la rythmique quand même, mais à un moment ou à un autre, ça partait en solo aussi quoi. Funky Music, donc c'est, je crois que c'est le morceau qui clôt l'album du Johnny Winter Hand, donc leur tout premier album studio, enfin le seul album studio, parce que l'autre c'est un live il me semble, enfin bref, je sais plus, c'était en 70 en tout cas. Le morceau donc Funky Music. Alors, par contre, faut que je le retrouve. Alors ça, c'est une autre paire de manches. Ouais, il doit être par là.
Before you know it,
Voilà, après les déchirades de guitare de Rick Derringer et Johnny Winter, on va s'écouter la rubrique Digit, donc hommage à l'émission du même nom, qui sévissait sur ses antennes sur Canal Sud pendant deux décennies, puis sur FMR avant, drivé par Gilda bien sûr. Et un groupe, alors qui était un des groupes fétiches, mais alors il y en avait des dizaines, hein, bien sûr, de groupes fétiches hein, de l'émission. Mais celui-là, il était quand même un groupe préféré, sans aucun doute, c'était les Dirt Bombs, un groupe de Détroit, qui avait la particularité de changer un peu de style à chaque album. Et donc, c'était le premier un peu rugueux, bizarre, garage, punk, mais donc, des côtés un peu expérimentaux. Et puis ils avaient fait un album de reprise soul, alors là c'était totalement torride. C'était une formation très particulière, les Dirt Bombs, puisqu'il y avait deux batteurs, deux bassistes en général, et un guitariste-chanteur qui était Mick Collins, l'ancien Gorillaz. Et ensuite ils ont fait des albums un peu plus dans le style garage, épique, mais assez bruitiste, disons. Et puis un album aussi un peu de bubblegum, on va dire quoi. Et puis ils ont eu un projet. Quand on était allé interviewer Mick Collins à Détroit en 2005, là, il nous avait parlé de différents projets. Par exemple, un album qui serait enregistré que avec des jouets pour enfants, des guitares jouées, batteries jouées, micro jouées, etc. Bon, ça ils l'ont jamais fait. Et je ne me souviens plus s'ils l'avaient évoqué, mais ils ont eu un projet qui était de faire un album de reprise de house et de techno de Détroit. Et ça, ils l'ont fait, par contre. Alors, sur une espèce de double album avec un morceau qui dure au moins 20 minutes. Je ne sais pas si c'est pas même sorti en triple album, je ne me rappelle plus. Enfin, c'est le seul album des Dirt Bombs que je n'ai pas. Voilà, celui-là, je me suis dit, oh non, là, quand même, putain, reprise de house et de techno, quand même, les gars... Bon, que des groupes de Détroit, parce que Détroit, hein, c'était une des villes majeures du blues urbain, hein, peut-être la ville majeure de la soul, le Detroit Sound dans les 70s, une des villes majeures du proto-punk, et puis du garage, et puis de la techno, et puis du rap, enfin un peu de tout, quoi. Hein. C'est une ville qui a une histoire tellement lourde et torturée que, évidemment, au niveau musical, ça explose de tous les côtés. Et donc c'est aussi une des villes précurseurs de la house et de la techno, de la musique électronique de manière générale. Quoi. Et puis finalement, cet album, bien des années plus tard, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, j'ai fini par l'écouter. Il s'appelait Party Store, il est sorti en 2011. Et ben, c'est pas si mal hein, finalement. Évidemment, c'est des morceaux d'électro, mais repris avec des grosses guitares, alors sauf un morceau, c'est une espèce de remix abominable. Et puis le morceau de 20 minutes, là, qui est assez insupportable. Mais le reste, c'est plutôt pas mal. Donc, on va réparer cette erreur. Dans mon souvenir, on n'a jamais passé l'album Party Store des Dirt Bombs à Digit, mais peut-être qu'on l'a passé un soir où j'étais pas là. Hein. Et donc, on va réparer cette erreur et s'écouter un des morceaux de ce disque, celui qui ouvre l'album d'ailleurs. Et qui s'appelle Cosmic Cars. C'est une reprise de Cybotron, un groupe donc d'électro de Détroit, qui a sorti ce morceau en 1982. Donc là, c'est repris par les Dirt Bombs en 2011, avec un line-up qui avait un tout petit peu changé. Alors, il y avait toujours les deux batteurs, Ben Blackwell et Patrick Pantano. Il y avait toujours Co à la basse, de Co and the Knockouts, là, la fille. Et c'est le bassiste là qui était un nouveau venu, qui s'appelait Zach Whedon, qui jouait sur d'autres groupes sur Détroit. Et Mick Collins, bien sûr, la guitare et au vocaux. Donc une reprise de Cybotron, enregistrée par les Dirt Bombs en 2011 sur l'album Party Store. Alors, évidemment, il faut que je le retrouve celui-là aussi. C'est les petits problèmes de numérotation qui ne correspondent pas sur la platine et sur la clé. Ah! Non, attendez. Ah. Ça y est, le voilà. Les Dirt Bombs reprenant Cybotron. Dirt Bombs, reprenant classique, disons, de l'électro de Détroit. Le groupe Cybotron, qui avait fait ce Cosmic Cars en 1982. Et les Dirt Bombs l'ont repris donc en 2011 sur leur album Party Store, qui est leur dernier, je crois. Hein. Je pense pas qu'il y ait eu d'autres albums après, à moins que l'album Bubblegum soit sorti après. Je sais plus trop, en fait. Je vais vérifier ça, mais en tout cas, plus de nouvelles des Dirt Bombs depuis un bon moment. C'était la rubrique des geeks, et là on va revenir à notre groupe fétiche du moment, les Beatles, et une reprise, comme je vous l'avais promis tout à l'heure, de I Want You chez So Heavy, par Booker T and the MGs. C'est sur leur fameux album Macklemore Avenue, où ils parodient la pochette de Abbey Road en traversant un passage piéton. Je crois qu'il n'y a pas de passage piéton par contre sur les Moore Avenue. Là. Non, ils traversent l'avenue. Les uns derrière les autres, voilà, pour imiter la couverture d'Abbey Road. Et ils reprennent tous les morceaux d'Abbey Road, mais en faisant des medleys qui ne sont pas exactement le même que le medley qu'il y a sur la face B d'Abbey Road. Ils mélangent un peu certains morceaux, ils font des medleys avec d'autres. Et c'est que des reprises instrumentales, hein, par contre. Mais leur reprise de I Want You, elle est plus courte que l'original. Je trouve qu'elle est pas mal, quand même. Donc Booker T and the MGs sur l'album Macklemore Avenue en 1970, reprise des Beatles.
Thank you.
I Want You, She's So Heavy, les Beatles, donc repris par Booker T and the MGs en 1970. Eh bien, on a eu Rick Derringer en solo, Rick Derringer avec Johnny Winter, voici Rick Derringer avec Edgar Winter, le frangin. Il a participé à l'Edgar Winter White Trash, et ensuite il fera partie à part entière du Edgar Winter Group, qui sortira un ou deux disques en live, et puis c'était une version un peu plus hard rock, disons. Le White Trash était plus soul. Et là, on va les retrouver donc avec l'Edgar Winter Group en 73 pour l'émission de télé allemande qui s'appelait Musik Laden. Il y a plein de vidéos qui circulent. Et ils reprennent, évidemment, Rock'n'Roll Uchiku. Troisième version, mais pas avec les mêmes musiciens. Et là, cette fois, alors Rick Derringer est aux vocaux, si je me souviens bien. Edgar Winter lui laisse les vocaux. Et Edgar Winter, lui, il est une espèce de clavier avec une bandoulière là, qui se met tout autour du cou. Et donc c'était son instrument principal avec le saxophone Edgar Winter, puis chanter aussi. Mais là c'est Rick Derringer qui chante donc en public. C'est une version de son morceau Rock'n'Roll Uchiku avec l'Edgar Winter Group. Et ça doit se trouver par là.
Special guest with us this evening, I'd like to say a few words about. He's produced my last three albums and has just finished an album of his own, which I had the pleasure of playing on. We're going to do a song from it right now. He's an excellent writer and guitarist and a good friend of ours, Rick Derringer! Good stop moving when it first took hold. So one straight night at the old town hall, you called the jokers, they were laying her down. But you know I'm never gonna lose that funky sound. Rock and roll, Uchiku. They're going out and spread the news. Time of year. Going down back, said she'd meet me there. We were rolling in the grass, goes the handlebar. Started ringing like a fire alarm. Rock and roll, Uchiku. Lordy mama, not my view. Rock and roll, Uchiku.
Thank you. light my fuse.
Rock and Roll Uchiku, troisième version cette fois avec l'Edgar Winter Group et donc Rick Derringer aux vocaux sur cette version et à la guitare. Et comme Edgar Winter l'a dit au début, Rick Derringer a produit tous ses premiers albums et il venait en 73 de sortir son premier album solo avec sa version à lui de Rock and Roll Uchiku. On a écouté donc Rick Derringer, on prononce apparemment. Rick Derringer avec Johnny Winter. On a écouté Rick Derringer avec Edgar Winter à l'instant. On va s'écouter maintenant Rick Derringer avec Johnny Winter et Edgar Winter en même temps. C'est sur l'album Johnny and Edgar Winter Together. Avec leurs deux tronches sur la couverture, là. Tous les deux albinos. On reconnaît Edgar parce qu'il a la barbe. Sinon, ils avaient à peu près la même tronche. Et sur ce, c'est un album live qui était enregistré à San Diego. Alors c'est sorti en 76, ça doit être enregistré sans doute la même année. Alors les musiciens là, sur ce live, eh ben, c'est Johnny Winter, Edgar Winter évidemment. Alors Johnny Winter, guitariste, hein, qui faisait lead vocal sur une partie des morceaux. Edgar Winter, lui, plutôt saxophone sur cet enregistrement. Avec les vocaux aussi de temps en temps. Rick Derringer à la guitare. Floyd Radford à la guitare. Alors lui, c'est celui qui joue avec Johnny Winter sur le Captured Live. C'est un guitariste solo aussi totalement flamboyant. Il y a Randy Joe Hobbs, encore lui à la basse, là, donc le vieux complice. Dan Hartman au piano. Richard Hughes et deux batteurs. Hein. Richard Hughes et Chuck Ruff à la batterie. Donc une sacrée troupe. Reprenant essentiellement des morceaux de soul, une reprise de Harlem Shuffle, et puis il y a le rock'n'roll medley aussi quand même. Jailhouse Rock, Tutti Frutti, Blue Suede Shoes et compagnie. Reprise de Good Golly Miss Molly aussi, Jenny Take a Ride, et celle qu'on va s'écouter, Soul Man, de David Porter et Isaac Hayes, qui avait écrit ce morceau, qui fait un énorme tube pour Sam & Dave. Voici la version donc de Johnny Winter, Edgar Winter, avec Rick Derringer à la guitare. Et ça doit être sur le vinyle. C'est par là.
Look.
Soulman, Johnny Winter, Edgar Winter, Rick Derringer et toute la bande sur l'album Together, donc en 76. Et bien, tiens, j'ai vérifié pour les Dirt Bombs, en fait, leur album Bubblegum, Oué Goui Choui Kabloui, est sorti après Party Stores. Party Stores, c'est en 2011. Et le suivant, qui sera le dernier album des Dirt Bombs, est sorti en 2013. Il y a un concert en 2016, et puis, hop, ils ont disparu. Je sais pas trop ce que devient Mick Collins. À un moment, il a reformé Gorillaz. Mais... je sais pas trop ce qu'il est devenu. Faut que je me renseigne quand même. Bref, c'est le dernier morceau de l'émission, précédé, bien sûr, d'une magnifique rubrique. D'une magnifique jingle pour une magnifique rubrique. D'habitude, Tommy Boy tient de main de maître. Là, je vais faire ce que je peux. Hein. J'aime bien le fromage de chèvre, mais faut pas qu'il soit trop fort quand même. Hein. J'aime bien le sorgoedec, mais à petite dose quand même. J'aime bien Los Gonococos, mais bon, là, il faut qu'on abrège un petit peu. Je rappelle, avant de s'écouter le dernier morceau de l'émission, que les bébés dinosaures, c'est tous les dimanches de 21h30 jusqu'à 23h. Que vous pouvez nous retrouver en streaming et téléchargement sur le site de Canal Sud, de canalsud.net, qui est en train d'être refait, le site. Et donc il y aura des centaines d'émissions a priori à télécharger ou à écouter. Et pareil sur le site Facebook des bébés dinos. La semaine prochaine, c'est Tommy Boy qui tiendra la baraque. Je serai absent et puis je pense qu'on se retrouvera tous les deux le dimanche d'après, a priori. Et en attendant, on se quitte avec un petit morceau folk que vous allez reconnaître, vu qu'on l'entend... dans notre jingle d'intro des bébés dinos tous les dimanches ou presque sur les ondes de Canal Sud 92.2. Ça va être Country Joe avec une version de I Feel Like I'm Fixing to Die Rag, son énorme tube quand même, mais pas avec le fish cheer, le fuck give me an F, give me a U, give me a C, give me a K qu'il avait fait Woodstock notamment, qu'il faisait aussi sur ses autres concerts. D'ailleurs, ça lui a valu quelques amendes de $500 pour obscénité dans certains bleds un peu obtus des États-Unis. Là, non, il ne fait pas l'introduction. C'est une version live aussi dans l'émission Musikladen, cette émission musicale allemande des 70s, où toutes les stars du moment passaient, en fait. Mais pas avec The Fish, son groupe habituel, avec le All Star Band, qu'il a drivé pendant un an à peu près, entre 112 et 113. Ils ont fait un album, Paris Sessions, enregistré au Château d'Hérouville, je crois. Enfin, en tout cas, enregistré en France, en 73. Et c'était un conglomérat avec un ancien Fish, quand même, Barry Melton, des vieux complices de Country Joe. Mais il y avait aussi deux Big Brothers, la rythmique, la David Getz, le batteur, et Peter Albin, le bassiste. Et une chanteuse, Dorothy Moskowitz, qui était à l'époque assez connue, semble-t-il, sur la scène californienne, qu'on a un peu oublié aujourd'hui. Et ça, c'était le noyau de base, disons. Et puis il y avait d'autres musiciens qui se greffaient là-dessus. Et il appelait ça le All Star Band. Et on va les retrouver donc sur cette version live du grand tube de Country Joe. À un moment, il sort, non pas un kazoo, mais une espèce de trompette kazoo. Un truc tout à fait réjouissant. Et comme disait Tatane, notre ami d'Armadillo, un groupe qui utilise le kazoo ne peut pas être un mauvais groupe. Country Joe and the All Star Band, I Feel Like I'm Fixing to Die Rag. Et je vous dis, pour moi en tout cas dans 15 jours, et pour les bébés dinos, à la semaine prochaine. Woo-hoo!
back. I want him to come back. Yeah, that's right. Tell him to come back.
I'll come back.